qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait recréer peut-être ce lien qui a été un petit peu perdu?
Oui, ce que nous avons voulu dire effectivement, c'est que l'entreprise, elle a eu dans l'opinion des vicissitudes. Il y a une époque où l'entreprise était portée au nu et on attendait tout de l'entreprise. Les chefs d'entreprise étaient des héros, etc. Et puis ensuite, il y a eu une période où, au contraire, alors la grande entreprise, c'est le mal absolu. La petite entreprise, encore, on la comprend, elle est proche, etc. Mais la grande entreprise, c'est la mondialisation dans ses aspects négatifs. Et le chef de grande entreprise, alors c'est l'horrible. Et moi, ce que j'ai voulu dire simplement, c'est que ce que nous avons voulu dire dans ce livre, c'est que bon, la mondialisation, c'est des opportunités extraordinaires, c'est aussi des problèmes. Mais l'avantage, c'est que cette mondialisation, elle apporte les solutions aux problèmes. Les problèmes de la mondialisation, c'est l'explosion de la population du monde, c'est les problèmes d'environnement, et puis c'est la financiarisation et l'hyper-développement, l'hypertrophie du système financier. C'est pas moi qui disais ça, c'était le nouveau régulateur britannique qui a employé cette expression, l'hypertrophie du système financier. Bon, mais les solutions nous sont apportées aussi parce que le développement technologique, l'innovation apportent des solutions aux problèmes de la population. On est capable de nourrir la population si on sait manager. On peut trouver les solutions aux problèmes d'environnement, même du changement climatique. Technologiquement, on a des solutions. Ce qui limite, c'est notre capacité à nous organiser socialement au niveau national, mais surtout au niveau international, mais les deux. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'entreprise est un lieu où le principe d'efficacité est roi. L'entreprise, c'est le domaine de l'efficacité. C'est en même temps, les entreprises internationales, un endroit où on comprend les différences culturelles. Parce qu'on a l'habitude de travailler dans différents pays. Et donc, les entreprises peuvent jouer un rôle positif, à condition, bien entendu, qu'elles ne soient pas dans le modèle anglo-saxon Milton Friedman, je gagne de l'argent et tout le reste, je m'en fous. L'entreprise a besoin de gagner de l'argent parce que c'est le symbole de son efficacité, et puis c'est la rémunération d'investissement des actionnaires. Mais l'entreprise responsable, l'entreprise humaine, est une entreprise qui se préoccupe de sa contribution à l'évolution de la société autour d'elle. Et ce livre dont vous parliez, il avait comme thème de dire des entreprises qui jouent ce jeu-là, elles sont aussi efficaces que les autres, voire plus efficaces que les autres, et elles peuvent apporter par la solution, parce qu'il n'y a pas une solution, mais elles peuvent aider à la solution. Mais ceci dit, les entreprises ne peuvent pas faire toutes seules. C'est la responsabilité des politiques de créer le cadre dans lequel les entreprises travaillent. –
Est-ce que justement vous considérez, peut-être François Hainaut, à armes égales quelque part, quand un groupe de services informatiques, il y a des groupes de services informatiques indiens, il y en a des américains, est-ce que vous, Steria européen, trouve qu'il est à armes égales face à ses concurrents quelque part ?–
Armes égales, l'expression est ambiguë parce qu'on n'a pas forcément les mêmes armes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, forcément aussi… On a moins de chances de gagner qu'ils peuvent en avoir. C'est juste que le risque serait justement de chercher à toujours être à armes égales. On est dans des économies totalement différentes avec des modèles économiques qui n'ont rien à voir. Donc effectivement, il ne faut pas chercher à être l'égal de quelqu'un qui vient d'un univers différent. Par contre, effectivement, il faut chercher à être plus fort, voire même dans, égaux en termes de compétitivité. Ça, c'est autre chose. Alors, oui, bien sûr, et fort heureusement, c'est un bel exemple, celui que vous prenez, puisqu'on est dans les technologies de l'information, ça se transporte à la vitesse de la lumière, donc la distance, la localisation a un peu d'importance. Et vous avez notre principale source, nos principaux coûts, c'est des coûts de main-d'œuvre. Donc effectivement, si on compare le coût de la main-d'œuvre en Inde et le coût de la main-d'œuvre d'ingénieurs formés, qualifiés en France ou en Europe, ça n'a rien à voir. Donc effectivement, si on prend juste cette variable-là, on est forcément perdant. Donc fort heureusement, on a d'autres atouts. Quels sont nos atouts? Nos atouts, c'est notre expérience. C'est-à-dire qu'on est, on a plus d'expérience dans ces métiers, dans ces technologies que l'ont ces jeunes entreprises, même très fortes, très, très grosses en taille, dans ces pays-là, comme l'Inde ou la Chine. Ensuite, on a bien sûr notre capacité d'innovation. Et on peut aller en notre capacité à digérer des nouvelles technologies rapidement. Et puis je pense que la bataille se fait aussi sur la créativité. Je crois qu'on ne pourra gagner que si on est capable de créer des offres voire des services qui sont moins intensifs en capitaux humains, et puis beaucoup plus intensifs en valeur d'usage. Et donc il va falloir, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir maintenir un niveau de compétitivité, parce qu'effectivement, il faut déplacer la variable de la masse salariale vers un autre élément qui, effectivement, sur lequel on va pouvoir exprimer plus davantage nos atouts.
L'image de l'aéronautique avec l'avance technologique et garder cette avance. Alors, je ne sais pas combien de temps on la gardera.
On dit que l'aéronautique, effectivement, a encore 10 ans, 20 ans d'avance. Mais je pense que c'est difficile de dater cela. Je pense que l'important, c'est de se mettre toujours dans cette dynamique de créativité, d'innovation, qui va faire qu'effectivement, on va pouvoir garder cet avantage compétitif. Bon, c'est, alors, pour revenir à la question précédente, parce que je trouve que quand même sur la parce que tout ça est très lié finalement, c'est cette réappropriation du travail, donc cette qui passe par la reconnaissance de l'entreprise. Je crois que on est malheureusement dans une période où on a perdu un peu le véritable sens de l'entreprise, et on associe trop l'entreprise aujourd'hui, et c'est une affaire très certainement de communication. On associe trop l'entreprise à sa performance financière, et on ne l'associe plus à ce qu'elle fait et à sa raison d'être, c'est de produire des services ou des biens. Et ça, c'est un vrai problème, parce que l'image qu'on se faisait l'entreprise il y a quelques années, vous l'évoquiez, qui effectivement, l'entreprise était vraiment vertueuse, parce qu'on l'associait aux produits qu'elle fabriquait, aux services qu'elle développait. Aujourd'hui, on ne l'associe plus qu'à des résultats financiers, et c'est une affaire de com. Allez voir des journalistes pour dire, j'ai envie de parler d'un produit que nous venons de développer ou d'un service, ça n'intéresse personne. Hein. Si vous avez par contre un scoop financier, ça intéresse tout le monde. Donc c'est un peu le problème.
Il faut retrouver ce que fait réellement l'entreprise. François Martin, sur cette réappropriation et sur cette ambiance, parce qu'on pourrait dire qu'effectivement, il y a eu aussi une envie d'aller travailler qui peut-être a n'est plus. Alors vous avez dit carrément, les Français, que certains n'ont plus cette envie-là.
Je pense, oui. Au passage, je signale que François Hainaut dit ça à un journaliste dont la société s'appelle labourseetlavie.com. Alors effectivement, il y a la bourse et la vie. Alors ce qu'il est en train de dire, c'est en fait, la bourse c'est bien, mais n'oublions pas la vie.
L'objectif, c'est derrière la bourse, il y a la vie, il y a une aventure humaine. Et c'est l'entreprise.
Oui. Absolument.
Alors sur cette réappropriation, comment on peut avancer?
Moi j'ai été frappé par ça en allant à l'étranger et en regardant un peu la France chaque fois que je reviens avec les yeux d'un étranger. Et je suis frappé d'une chose, c'est que quelque part j'ai l'impression qu'on a perdu en fait un espèce de... Il faut qu'il y ait un deal économique tacite entre l'entreprise et les salariés, et que la précarisation progressive, parce que quand on dit on a conservé notre modèle social, en fait c'est pas vrai. Xavier Bertrand hier, à mon avis, a oublié une chose là-dedans. C'est que quand on dit modèle social, en fait, il n'est pas que social, il est socio-économique. Et il y a une partie où on est énormément changé, c'est sur la sécurité. Parce qu'autrefois, il y avait un espèce de deal salaire-sécurité, travail contre sécurité. On rentrait dans l'entreprise, il n'était pas aussi important pour un salarié d'essayer de tirer le maximum à travers les syndicats de ce qu'il pouvait avoir comme avantage financier de l'entreprise, à partir du moment où la sécurité lui permettait de monter dans l'échelle sociale, d'éduquer ses enfants, etc. Ceci a totalement disparu, parce qu'aujourd'hui, en fait, le salarié... reçoit à plein le risque de la mondialisation. Donc, pour moi, il est quelque part devenu un co-investisseur de fait de l'entreprise. Il donne son travail à l'intérieur de l'entreprise, mais pour autant, il n'est pas rémunéré par rapport à son risque. C'est-à-dire qu'il considère... le système, il n'est pas considéré comme naturel, que si l'entreprise gagne beaucoup, ses salaires vont être explosifs. Par contre, que si l'entreprise perd, ben lui, il perdra son job. Alors, on est dans un espèce de système intermédiaire qui ne satisfait personne. Alors, il ne satisfait pas... Je ne parle pas des entreprises où le système, le dialogue social et socio-économique fonctionne. Mais dans beaucoup d'entreprises, il ne fonctionne pas. Alors, en fait, l'entreprise se satisfait d'une certaine façon d'une forme de précarisation parce que ça lui permet de tirer sur les coûts. Et puis d'un autre, mais en fait, ça ne la satisfait pas sur le long terme, parce qu'elle ne construit rien, elle construit sur la démotivation. Et puis d'un autre côté, le salarié lui-même continue à demander de la sécurité qu'il ne peut pas avoir, parce qu'il ne veut pas rentrer dans un dialogue où on va lui dire, bah, écoute, en gros, où tu es un mercenaire, ça s'est vu de la mauvaise façon, mais de la bonne façon, tu es un entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Si on gagne, tu gagnes. Si on perd, tu perds. Alors, on est entre les deux. C'est un peu ce problème de paradigme dont je parlais.
Peut-être nouveau pacte ou pacte qu'on essaye.
Je suis assez d'accord sur le fait que on n'a pas développé suffisamment l'idée qu'effectivement les collaborateurs doivent être solidaires de l'entreprise, y compris financièrement. Dans la difficulté comme dans le succès. Mais les gens sont prêts à le faire. Moi, je voyais dans une réunion que nous faisions l'exemple de Poquelin Hydraulique qui a traversé la crise de 2008 avec 2009 avec des baisses de volume de 60%. Alors, la solution classique, c'est de liquider 60% du personnel. Bon, ben, ils n'ont pas fait ça. Ils ont réussi à avoir un accord avec l'ensemble des syndicats de l'ensemble des pays où ils étaient pour faire évoluer la masse salariale vers le bas pendant l'année 2009, avec des clauses de retour à meilleure fortune, etc. Et finalement, ils ont eu un accord pour garder la substance sociale de l'entreprise pour traverser cette crise. Donc, c'est ce qui me frappe, moi, c'est que quand il y a un problème posé dans l'entreprise, on trouve des solutions. Les gens ne sont pas idiots, ils savent que quand on est confronté à un défi, ben, il faut faire ce qu'il faut. Par contre, quand le même problème est vu au niveau national ou au niveau macroéconomique, les gens se bloquent. Ou les représentants des gens se bloquent. Et on n'arrive pas à trouver de solution. Alors, en France... on retrouve un peu l'histoire de la prime dividende qui a été mal posée, mais enfin bon. En France, on a un système d'intéressement et de participation qui en termes de masse, de volume, comprend pas mal d'argent. Moi, nous avons des sociétés, quand elles marchaient bien, il y avait jusqu'à 25% de la rémunération des gens qui était faite de l'intéressement et de la participation. Mais à la française, c'est un système affreusement compliqué. Il y a deux niveaux, participation, intéressement. Alors, participation, vous pouvez toucher, c'est égoliste. Alors, bon, intéressement, c'est un peu plus souple. Mais enfin, il n'y a pas si longtemps, il fallait que l'accord ait un agrément. Donc, un accord de 3 ans, on avait l'agrément au bout de 2 ans. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais moi, je prône depuis longtemps une simplification beaucoup plus grande de ça.
Qu'est-ce que pas qu'on ait une meilleure vision de cette partie-là.
Et puis que ça fasse partie du dialogue sur la rémunération, alors que théoriquement, on n'a même pas le droit d'en parler quand on parle des salaires, parce qu'il faut que ça soit totalement indépendant des salaires. Bon, c'est pas sérieux. Et je pense qu'il y aurait des choses à faire dans ce sens-là, parce que je suis d'accord que le risque négatif lié à la volatilité, à la difficulté, à la rapidité des changements, doit être compensé par un risque positif qui est quand l'entreprise va bien, que le collaborateur puisse en profiter.
François Hénaud, sur cette évolution
des entreprises. Ça touche un point très très important et qui nous est très cher, puisque ça touche même au modèle même de l'entreprise que nous avons développé, qui a été créé il y a 40 ans. Je crois, si je peux me permettre, que ce pacte qu'il faut créer entre les salariés et leur entreprise pour effectivement retrouver cette motivation, quel que soit le contexte environnemental, mais retrouver cette motivation qui est un gisement de compétitivité énorme. Je crois que ça dépasse l'enjeu ou la question de la solidarité financière. Elle est importante, elle est clé, puisque effectivement, il faut avoir au moins déjà être fair vis-à-vis de ses salariés. Je ne vois pas pourquoi effectivement ils seraient toujours les perdants lorsqu'il y a des difficultés, et pas les gagnants lorsque les choses vont mieux. Donc ça, ça me paraît être le minimum. Mais l'équation doit aller bien au-delà. Et je pense qu'on a parlé d'un enjeu énorme tout à l'heure en disant, mais finalement, l'enjeu, c'est de cette capacité à s'adapter rapidement, à remettre en cause son modèle, à repenser ses atouts, donc à changer. Je crois que le changement ne peut pas... il est aujourd'hui, il va à une vitesse colossale. Dans notre industrie, avant, il suffisait de s'adapter à des évolutions technologiques. C'était déjà beaucoup, puisqu'il y en avait souvent dans les technologies de l'information. Ça bouge vite. Mais enfin,
on avait
un rythme plus lent. Maintenant, pratiquement les changements économiques sont encore plus rapides. Et la vérité d'un jour, elle est remise en cause 3 mois plus tard, etc. Donc les changements sont encore plus soudains. Et je pense que dans une entreprise de plusieurs dizaines de milliers de personnes, comme c'est le cas de Lafarge ou de Steria, vous êtes obligé, je veux dire, c'est pas que le management ne peut pas comme ça d'en haut dicter un changement, et surtout, à la limite, s'il est très intelligent, il pourrait peut-être l'imaginer, le concevoir comme il faut, mais alors dans l'exécution, évidemment, ça passe par la contribution de chacun. Donc chacun doit être acteur de ce changement. Mais pour être acteur, je veux dire, encore faut-il comprendre le pourquoi de ce changement. Et donc, c'est pour ça que l'équation va plus loin que la solidarité financière. On est obligé de faire de nos salariés des co-entrepreneurs. Et on doit trouver des modèles d'entreprise et de gouvernance qui font que finalement, d'une certaine manière, les collaborateurs sont partie prenante des décisions stratégiques.